Oui, ce matin, je vous propose qu'on lise la parabole de la veuve opiniâtre et du juge inique, qui est en Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est une parabole qui est un peu complexe. En tout cas, souvent, elle a été mal interprétée parce qu'on la télescope pour nous aujourd'hui directement sans forcément comprendre dans quel cadre elle a été dite. Et pour le coup, c'est compliqué de voir, quand vous allez l'entendre, parfois il y a eu des mauvaises interprétations. Et pour le coup, quand il y a des mauvaises interprétations, on passe à côté du texte. Et c'est dommage. Et pour le coup, on va essayer de clarifier, de l'éclaircir et surtout voir en quoi ça nous parle aujourd'hui. Donc je vais la lire. Je lis dans la version œcuménique, donc si ce n'est pas tout à fait la même version que vous, c'est assez équivalent en fait, hein, pour le coup, dans le grec en tout cas. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte pas les hommes, eh bien parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il les ferait attendre, je vous le déclare. Il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, je ne sais pas vous, mais quand je lis cette parabole, je suis perplexe. Il y a beaucoup d'éléments troublants en réalité quand on lit et qu'on considère toutes les paroles sont dites par Jésus là, et par cette image de Dieu en forme de juge inique, lointain, insensible, distant, et de l'autre côté, de ce qu'on est habitué à connaître de Dieu à travers Jésus, le fait qu'il soit proche, le fait qu'il soit bon, le fait qu'il ait de la miséricorde et qu'il exauce les prières aussi des personnes qui souffrent. Et là, il y a comme un genre de difficulté, en tout cas, c'est troublant. C'est troublant et je pense que ça mérite qu'on s'interroge en réalité sur ce texte. Pour quelles raisons, au fond, d'une part, il présente Dieu de cette manière et surtout, l'interrogation qu'il donne à la fin, quand il dit, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, avant d'éclaircir cette parabole, je vous invite à entendre et écouter un petit peu son contexte, situer le récit en fait de cette parabole. Parce qu'en fait, le récit de Luc le place à un endroit qui nous permet de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc Jésus, il se trouve à Jéricho, non, pas à Jéricho, vrai, il va en direction, on dirait, de Jérusalem et il est proche de Jéricho. Et on sait à Jéricho, il va rencontrer l'aveugle Bartimée. Une fois, j'avais fait une prédication ici à ce sujet. Et il rencontre aussi Zachée sur son sycomore. Mais avant cela, donc il est avec ses disciples et il marche donc en direction de Jérusalem. Et dans cette route-là, il rencontre tout un tas de gens différents, des Samaritains, des Juifs, des Pharisiens, des lépreux, des gens qui lui demandent, qui posent des questions, des gens qui l'apostrophent. Bon, bref, il rencontre tout un tas de gens Et à chaque fois, on le voit dans ce passage de Luc 15 jusqu'à 18, il y a énormément d'enseignements, en particulier des paraboles, comme celle-là. Mais il y a aussi des réponses à des questions. Et donc, en fait, c'est vraiment un passage où Luc choisit de, dans ces trois chapitres, il choisit en fait de nous montrer quel a été l'enseignement de Jésus à cette époque-là auprès de ses disciples, auprès des gens qui l'entendaient. Et cette parabole de la veuve opiniâtre qui vient en permanence casser la tête à ce juge, et en fait suit un enseignement, ou plus particulièrement suit une interrogation des pharisiens qui viennent voir Jésus et qui lui posent cette question: quand doit venir le règne de Dieu? Et Jésus, donc, il dit: le règne est déjà là, donc il parle de sa personne. Et ensuite, il rentre dans ce qu'on appelle un discours apocalyptique, c'est-à-dire sur la fin des temps, sur ce qui va arriver. Et il donne tout un certain nombre de références qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les autres évangiles, alors pas forcément placées aux mêmes endroits, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. L'enseignement, ça reste le même. L'enseignement qui dit comment, au fond, le jugement vient, puisque c'est ça dont il s'agit, le jugement. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que cette parabole en fait est donnée. Et si vous avez un petit peu, vous connaissez un peu les évangiles, on a ce texte où Jésus exhorte ses disciples à veiller et à prier. Et on pourrait assez facilement rapprocher tout simplement cette parabole sur cet enseignement. En fait, cette parabole est une exhortation, comme il l'est dit d'ailleurs au début, à veiller et à prier. Mais dans quel cadre et pourquoi? C'est vrai, on se dit, il faut veiller, il faut prier, etc., parce que c'est important, parce que on est chrétien, parce que Jésus nous le dit, parce que il y a besoin de prière. On l'a vu par exemple tout à l'heure avec le témoignage de Florence. Mais en réalité, pourquoi? Et comme je vous l'ai dit en introduction, on télescope souvent en fait ce texte dans notre vie d'aujourd'hui sans comprendre en fait de quoi il s'agit. De quoi parle-t-il quand il nous exhorte à veiller et à prier? Alors, je l'ai dit un petit peu avant, c'est dans le cadre des temps de la fin qui nous parle de ça. Les temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et donc, cette exhortation, c'est pour nous, veiller et prier. Mais pour veiller et prier correctement, il faut savoir de quoi il s'agit. Alors, Jésus nous donne une petite indication sur la parabole. Et on va y venir un petit peu plus clairement maintenant, cette parabole. Il ajoute, c'est ça dans le texte, on le voit, « Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui ?» jour et nuit, et il les fera attendre, je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Il donne cette indication pour nous expliquer, c'est une référence qu'il donne à ses disciples, pour être précis, pour nous expliquer dans quel cadre il faut comprendre son exhortation. Dans quel cadre? Et en fait, c'est une référence qui traverse tout l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans les livres de la Torah, dans les livres historiques, chez les prophètes. On l'y trouve dans les évangiles, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, et on le trouve jusqu'à l'Apocalypse où tout le dévoilement est fait. Et donc, dans toute la Bible, il y a une référence, que Jésus utilise dans cette parabole pour nous expliquer de quoi il s'agit. Et cette référence, en fait, c'est une vengeance dont il est question. Une vengeance. Tout à l'heure, notre frère, en citant le psaume 130, je crois, c'est ça, c'était le psaume 130, si mes souvenirs sont bons, il a parlé du guetteur qui attend l'aurore, qui est, comme il attend le Seigneur, il attend l'aurore. Voilà, c'est une belle image. Mais cette aurore, en fait, c'est le soleil, c'est au fond la justice. Dieu, le guetteur, ou le croyant, si, parce que c'est ça dont il s'agit, attend la justice de Dieu comme le guetteur attend le lever du soleil pour aller se coucher, puisque c'est un veilleur. Et il en est certain, le soleil va se lever. C'est une certitude. Parce que tous les matins, le soleil se lève. Et donc ce guetteur attend, parce que ça va être le moment où il va être relevé de son service. Et là, en l'occurrence, on pourrait imaginer un peu la même chose. Dans ce texte, il y a cette notion de vengeance, comme je l'ai dit, dans le sens de justice. Et cette justice vient bientôt. Quand le soleil va se lever, cette justice sera là. Et pourquoi je parle de vengeance ? Parce que, en fait, nous avons, par exemple, dans le Deutéronome 32, alors je ne vais pas faire toutes les références parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi, et donc on aurait pu aller dans toutes les références et ça aurait vraiment éclairci beaucoup plus le texte. Mais bon, grosso modo, on a dans le Cantique de Moïse qui fait un chant, une belle chanson en l'honneur du rocher d'Israël qui les délivre, qui va les délivrer, qui les a délivrés, mais qui va aussi leur donner le pays promis, puisqu'il est en face de Jéricho au moment où il fait ce chant. Il parle d'un jugement, en forme de vengeance, celle de Dieu qui venge ses serviteurs qui ont perdu leur vie en raison de leur fidélité et de leur témoignage, une vengeance qui a pour but plus large et plus ultime que juste les personnes qui sont là précisément. Donc c'est en fait comme une prophétie que Moïse donne à ce moment-là. Il y a également en Deux Rois, où on parlait tout à l'heure, ils vont parler d'Élie, là, c'est très intéressant, avec les prophètes de Baal. Eh bien, là aussi, précisément, il est question de cette vengeance. Dieu se venge. Il venge ses serviteurs qui sont persécutés, qui sont martyrisés au nom, pour la cause de la vérité, pour la cause de Dieu. C'est ça dont il est question, en fait. Et Jézabel avait tué les prophètes. Elle les avait persécutés, ils avaient été obligés de se cacher. Et le plus emblématique, Élie, avait été aussi chassé après avoir tué les 400 prophètes de Baal, qui était déjà une anticipation au jugement des faux prophètes et de Jézabel. Et pour le coup, on voit très clairement que là, encore une fois, il s'agit d'une vengeance. Et on a une autre référence aussi en Zacharie, où là, on a vraiment, dans ce cadre-là, les exilés qui reviennent, donc de Babylone, ils arrivent donc à Jérusalem, et là, ils sont contestés. Il y a toute une peuplade autour qui leur dit « Non, vous n'avez pas à venir ici ». Et donc là, il y a tout un procès qui se fait entre eux, les exilés, et ceux qui étaient restés. Ça monte jusqu'au gouverneur de babylonien dans le secteur, et le gouverneur tranche pour les peuplades autour. Ça va remonter jusqu'au roi de Perse, qui au bout du compte va arbitrer en faveur des exilés. Et la suite nous apprendra que ceux qui sont restés, c'était les exilés, c'était vont devenir ensuite les Juifs qu'on nous connaissons dans le Nouveau Testament, et tous ceux qui étaient autour, ils vont être déboutés de cette justice. Et là, on voit encore une fois un arbitrage de Dieu en faveur de son peuple, Et dans le texte de Zacharie, c'est très clair. Je te choisis, toi, Jérusalem, je te choisis, toi, Sion, par rapport à tous les autres qui sont là et qui revendiquent cette place-là. Et là encore, il s'agit d'un jugement, d'un arbitrage. Et il y a toujours aussi cette notion de vengeance, puisque à chaque fois, il y a des persécutions, il y a des gens qui sont tués et qui sont martyrisés pour le nom de Dieu. Et bien sûr, la dernière référence, alors il y avait bien sûr dans le Nouveau Testament, il y a la veuve là par exemple, il y en a d'autres aussi, dans Matthieu 24, 25 et 26, mais il y a également en Apocalypse le grand dévoilement. Et là c'est juste merveilleux. On ouvre tout ça, c'est extraordinaire, et on tombe sur ce texte magnifique qui est directement en lien avec la veuve, et je vais vous lire ce passage. C'est Jésus est dans est l'agneau sur le trône. Vous savez, on est dans un grand culte au ciel, dans le chapitre 5 et 6. C'est magnifique. Il y a les anges qui chantent, il y a les saints qui adorent Dieu, il y a les 24 vieillards qui se prosternent devant lui. Il y a toutes sortes de choses. Et il y a un livre scellé de sept sceaux. Et personne n'est digne de l'ouvrir, il n'y a que Jésus qui est digne de l'ouvrir. Il les ouvre les uns après les autres, et il y a une forme de jugement qui s'opère. Et ça commence par les cavaliers. Clac, premier saut, cavalier, etc. Et là, les cavaliers, on le retrouve dans Zacharie, par exemple. Le texte que je vous ai cité tout à l'heure, que je vous ai un peu paraphrasé, quoi. Et si on claque, premier saut, deuxième saut, troisième saut, on arrive au cinquième saut. Et là, écoutez ce cinquième saut. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait porté. Il criait d'une voix forte, « Jusqu'à quand ? Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à verser et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» On retrouve encore une fois la même chose, jusqu'à quand tarderas-tu ? Dans les textes de Deutéronome, on a le même jusqu'à quand tarderas-tu ? Dans le texte de Jézabel, de Roi, on retrouve exactement ce même terme. C'est les mêmes notions qui sont mobilisées. C'est cette référence dont il s'agit, et c'est la même référence qu'il y a chez la veuve. Jusqu'à quand me feras-tu justice ? Jusqu'à quand ? Et là, ça continue. « Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. » Donc déjà, ce texte en lui-même est parlant. Il nous parle de ce que signifie d'une certaine manière cette attente. De quelle attente il s'agit ? Il s'agit de la justice du peuple de Dieu qui vient. C'est-à-dire leur justice qui n'est pas encore manifestée est en train d'arriver. Elle arrive. Et c'est une grande justice, c'est-à-dire c'est ce qui fait que on a par rapport au monde un discours différent et sur lequel on est, alors pas ici peut-être, mais on est persécuté en tant que chrétien. Et dans ce grand procès entre Dieu et les hommes, qui va remporter, entre guillemets, le verdict, enfin, entre Jésus, disons, plutôt, et ses élus, et, comment ça s'appelle, et tout le reste de l'humanité, qui devant Dieu va être déclaré juste et innocent? Qui va, au fond, obtenir justice du grand juge suprême? C'est ça dont il s'agit dans le texte, en fait, dans la parabole. Donc, ça nous dépasse un petit peu. Nous, on est sur la terre, on est dans une époque bien précise, avec nos petits problèmes, etc., qui sont importants, ce n'est pas le sujet. Mais le texte de la veuve et opiniâtre et du juge suprême nous parle de quelque chose qui nous dépasse, et vraiment, qui nous dépasse, mais qui a un lien direct avec nous. Ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'on n'est pas concerné. On est concerné, mais ça nous dépasse. Ça nous dépasse Et pourtant, c'est une grande source d'encouragement quand on le considère plus en détail. Parce que quand on continue dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui nous est dit ? C'est que ces personnes-là qui ont cette robe blanche, elles vont passer par une grande épreuve. Elles vont être poursuivies et vaincues par la bête. Bête, une image du monde, du diable, de l'ennemi, qui encore et continuellement vient attaquer les élus de Dieu. Et il y a toutes sortes d'injustices qui s'opèrent dans cette traque. On a toujours en tête les chrétiens persécutés, mais quand on cherche à marcher dans la justice, même dans notre travail au quotidien, on aura des détracteurs. Et ces détracteurs peuvent nous faire beaucoup souffrir sur le plan moral. Prenons un exemple, il suffit qu'à un moment ou à un autre, on tombe sur un chef qui est un peu despotique, et malgré votre volonté d'être juste et de marcher correctement avec Dieu et de faire correctement votre travail, cet homme-là, il respire la haine, la vengeance, on ne sait pas ce qu'il respire, mais bon bref, il voit chez vous une personne avec qui il va pouvoir bien jouer, il va pouvoir être méchant, il va pouvoir finalement exprimer toute sa nature à votre dépens, et là, vous allez entrer dans une forme de conflit qui va demander, en fait, à un moment ou à un autre, un verdict. Et ça peut être une image, à petite échelle, de ce qui se passe à grande échelle. Et qui peut nous montrer, en réalité, que derrière, en fait, ce despote, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Et en plongeant nos yeux dans cette promesse que Dieu dit « Je te choisis, toi », et pas ce despote, il y a une grande source de consolation parce que ça arrivera à son terme. Un moment, Dieu viendra me faire justice. Et je peux être encouragé à continuer à marcher dans la justice et dans la vérité, quoi que ce maître méchant et despotique puisse me faire. Si, voilà, ça c'est une situation, un exemple concret, mais de manière plus large, on a évoqué les chrétiens persécutés, voilà, c'est aussi une réalité. Maintenant, peut-être, et comme ça se termine, essayons de comprendre un peu globalement qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question qui doit nous interpeller. Parce que dans ce récit, bien sûr, il s'agit de l'Église. La veuve, c'est l'Église qui demande justice à Dieu et qui n'a pas cette justice. En tout cas, il lui est demandé d'attendre. Elle va arriver, mais il lui est demandé d'attendre. Mais néanmoins, dans cette attente et dans cette souffrance, comme je l'ai dit, il y a une grande épreuve. Et on l'a vu avec les disciples, avec Jésus, quand Jésus est passé par là aussi, hein, parce que Jésus est passé par ce moment-là aussi, ils n'ont pas été capables de veiller et de prier, ne serait-ce qu'une seule heure. Alors, il ne faut pas croire que c'est facile, en fait, de veiller et prier. Ce n'est pas facile, en réalité. Parce que les disciples, alors qu'ils connaissaient Jésus, qu'ils avaient vu les miracles, etc., ils n'ont pas pu faire une seule heure. Quand la persécution et les épreuves arrivent, on ne tient pas.
On ne tient pas.
C'est ça la réalité. Tous les disciples ont trahi Jésus. Ils sont tous partis. On a vu Judas. Lui, carrément, il l'a vendu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quand Jésus donne cette exhortation, veillez et priez, c'est pas pour rien. Et quand il dit à la fin, il pose cette question, est-ce que je trouverai la foi dans sur la terre quand je reviendrai, c'est pas pour rien non plus. Parce que il y a des forces et des puissances extraordinaires qui travaillent et qui en fait sont pour nous des occasions de chute énormes. Et pour le coup, c'est extrêmement décourageant. Parce qu'on se dit, au fond, est-ce que je vais tenir ? Bien souvent, on examine notre vie chrétienne, ou en tout cas, on attend de notre vie chrétienne ce qu'on attend d'elle, notre espérance, etc., sont, hélas, beaucoup basés sur notre vie présente. Là, il arrive les augmentations de gaz et d'essence. On sait que tout augmente, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est les aspects matériels. Ça mobilise notre pensée et on prie pour ça. Ce qui mobilise notre pensée, c'est aussi des choses moins matérielles, mais qui sont aussi de cette vie présente. L'éducation de nos enfants, s'ils vont réussir professionnellement, le succès aussi de notre église locale, s'il va y avoir du monde, si on va continuer à vivre, s'il va y avoir toujours des activités, si telle ou telle chose va se réaliser, etc. Ça, c'est les choses, les considérations de ce siècle, c'est de cette époque-ci. Et souvent, nos prières, ce que nous faisons et ce que nous disons est vraiment jalonné par ces choses-là. Quand viendra la grande épreuve, ce n'est pas avec ces choses-là qu'on tiendra debout. Parce que toutes ces choses-là vont être balayées. Il n'y aura plus ces choses-là. Il faudra trouver une foi beaucoup plus profonde et beaucoup plus large et avoir une vision de Dieu beaucoup plus grande que juste mon quotidien. Et pour le coup, ce texte de l'Apocalypse est là pour ça, pour élargir notre vision. Mais derrière tout ça, derrière ce combat, ce procès qu'il y a entre Abel et Caïn, Abel dont le sang, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. On parle de martyrs, on parle de gens qui souffrent pour leur foi dans la grande épreuve. Le sang d'Abel continue à crier aux oreilles de Dieu et Caïn continue à prospérer et c'est lui qui vainc, c'est lui qui gagne sur cette terre, tout le temps. Mais il y a cette promesse et on le voit tout le long du plan du salut, toute la Bible, à chaque fois, Dieu, c'est celui qui a le dernier mot. Et il y a effectivement des batailles qui sont remportées par la bête, mais la bataille finale, c'est toujours Dieu qui la remporte, et à chaque époque. On vit aussi une bataille aujourd'hui, à notre époque, au même titre que Élie la vivait à son époque, au même titre que Moïse la vivait à son époque, au même titre que Jésus l'a vécu à son époque, au même titre que dans l'histoire de l'Église, à chaque époque, il y a eu effectivement cette bataille qui s'est livrée et aujourd'hui, le Christ est toujours là, victorieux. Et cette victoire, c'est la nôtre. Faut-il la discerner, cette bataille ? Faut-il comprendre ce jugement qui vient ? Faut-il s'en emparer et garder la foi dans ces moments d'épreuve ? Et pour les choses de ce siècle, ça ne veut pas dire qu'il faille les mettre de côté, mais il faut les remettre en perspective par rapport à cette grande image, les remettre en perspective. C'est fondamental. Avec cette idée toujours, et je vous laisserai avec cette exhortation finale, cet encouragement puissant, parce que ça nous est permis de l'espérer, d'espérer. Nous avons le Saint-Esprit qui nous est secourable. Regardez tous les psaumes. quand on voit cette bataille qui se livre aussi dans les psaumes, dans les persécuteurs, ceux qui viennent m'agresser, etc. On voit souvent quand on lit les psaumes, ceux qui sont habitués à lire les psaumes voient qu'il y a un combat là, spirituel qui s'est souvent mené. Il y a des phrases merveilleuses. Mon cœur était dans la fosse et tu es venu me secourir. J'étais dans l'épreuve la plus totale, dans la plus obscure. Je n'avais plus d'espoir, plus d'espérance. J'étais aveugle, nu, brisé, moqué. On se moquait de moi, comme le fameux chant qu'on a chanté, Élève-toi, notre Dieu. Il y a un moment, il est dit, pourquoi vous moquez-vous voilà. Mais des moqueries aussi qui sont là et qui finalement nous humilient parce que nous, on a choisi une voie et ces gens-là nous disent « Votre voie, elle est mauvaise. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des abrutis, vous êtes des gens arriérés, des gens qui ne comprennent rien à la vérité. Il y a la science, vous comprenez, il y a ci, il y a ça. » Toutes sortes de choses qui nous est opposées dans notre voie et qui parfois nous traînent dans la boue, eh bien, Dieu vient nous relever. Et son secours est certain. Donc ça, dans ce combat spirituel, nous savons que nous avons la victoire, d'une part, parce que la grande image, nous l'avons, et nous savons que Jésus est victorieux. Mais il y a également, dans notre vie quotidienne, quand on a mis les choses en perspective, l'Esprit Saint qui vient aussi nous secourir toutes les fois où nous sommes accablés, dans le chemin que nous prenons pour la vérité. Pour la vérité, pas pour le mensonge. Ça, c'est important. Pour la vérité. Parce que le mensonge, il n'y a pas de salut dans le mensonge. Mais tous les frères et les sœurs qui marchent derrière le Christ dans la vérité, il y a un salut pour eux. Et même quand ils marchent dans le mensonge, ils se retournent. Ils reviennent à Dieu et Dieu les secourt. Parce que Dieu est bon. Et parce que nous aussi, on se fourvoie dans nos idoles et dans nos mensonges. Mais au-delà de cela, rappelons-nous que Dieu nous a sauvés par grâce et il nous soutient. Et en dernier lieu, en dernière instance, devant le grand procès qui est en train de se livrer aujourd'hui, c'est en train de se faire. Depuis tous les siècles, ça se fait. Et un jour, quand Jésus va revenir, toutes ces choses vont être dévoilées. Ce procès qui est en train de se jouer, nous avons été déclarés innocents, nous avons été déclarés justes. Et cette justice, elle sera pour nous un grand sujet de gloire. De gloire. Et tous les gens qui auront critiqués, qui auront conspué, qui auront tué les témoins du Seigneur dont on fait partie. Ces gens-là, ces impies, c'est comme ça qu'ils sont décrits dans la Bible, ces Caïn, si vous préférez, ces menteurs aussi, et ces tueurs, ces gens-là ne passeront pas devant Dieu parce que Dieu va se venger. C'est comme ça que Dieu c'est pour ça qu'il dit à moi la justice et la rétribution. Dieu va venger le sang de ses enfants. Et c'est comme ça. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est pas, on a l'impression, oui, mais c'est un petit peu barbare, etc. Non, c'est tout à fait juste. Parce que ces personnes-là, face à la vérité, ils auraient pu la choisir. Mais non, ils ont préféré le mensonge et ils ont ajouté à leur mensonge le meurtre. Le meurtre. Et cela, pour cela, ils seront jugés. Et c'est comme ça que Dieu opère la séparation des justes et des méchants. C'est sur la base de cette vérité que ça se fait. Ce n'est pas sur la base des œuvres. C'est sur la base de la vérité. Alors j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux cette parabole quand vous, vous passerez dessus, qu'il s'agit d'une parabole qui nous parle du grand plan de Dieu, et pas juste uniquement de ma petite vie aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ma petite vie n'a rien à voir, elle est en lien avec, mais elle doit être vue dans une perspective plus grande. Et après, ça nous encourage à prendre, à saisir en fait cet encouragement de veiller et de prier, sachant que Dieu est là pour nous secourir tout le temps, tout le temps, tout le temps, par son Esprit Saint. On prie? Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette grande image, pour ce plan de salut du début jusqu'à la fin de ta parole qui est manifestée pour nous. Et on veut te rendre grâce parce que, Seigneur, nous qui sommes petits, nous qui avons des considérations bien petites, parce que nous sommes, et c'est normal, Seigneur, ici, à marcher dans notre époque, dans cette terre, à Vauvert ou à Nîmes ou dans le coin, on vit avec cette vie. Mais, Seigneur, merci parce que dans ta parole, il y a des éléments qui nous permettent de voir la grande image. Et, Seigneur, on veut toujours vivre de cette grande image. On marche sur la terre, mais on a la tête dans le ciel et on sait notre vocation. Et Seigneur, on veut te rendre grâce parce qu'on sait que notre justice est assurée et qu'un jour, notre justice confondra tous les menteurs, tous les meurtriers, tous ceux qui, en permanence, Seigneur, ont attaqué ton Christ et ses élus. Je te prie, Seigneur, pour que tous les chrétiens persécutés qui aujourd'hui sont dans cette souffrance, beaucoup plus vive que nous ce qu'on peut vivre ici, ben, ils puissent être consolés par les paroles de l'Apocalypse et de ce qu'il y a dans les Écritures. Et que des frères et sœurs puissent leur témoigner aussi encore et encore leur amitié comme ça se fait déjà. Seigneur, merci aussi pour nous et dans nos combats et dans nos difficultés. Je te prie, Seigneur, de nous donner le secours nécessaire pour que nous puissions, dans l'épreuve, ne pas fuir et nous saisir, Seigneur, des paroles de foi que tu nous donnes pour traverser les épreuves. En ton nom. Amen.